BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on entame la deuxième heure de BFM Patrimoine, puisqu'on vous accompagne comme chaque jour jusqu'à midi et on file tout de suite sur le marché pour prendre le pouls de cette séance un peu particulière parce qu'on pensait être parti et il y avait des raisons entre la Fed et la Russie pour baisser assez nettement. Et puis finalement, on revient quasiment au niveau d'équilibre. Céline Bourban est avec nous en ligne depuis Port-en-Par. Bonjour Céline.
Bonjour Cédric.
Bon, qu'est-ce qu'on se dit sur les tables ce matin pour justifier finalement, alors que le contexte est quand même compliqué, que c'est pas forcément la baisse, ou en tout cas pas une baisse très forte qui prévaut?
Non, mais écoutez, en fait, on a déjà effectivement l'attente de la décision de la Fed, mais également les chiffres de l'inflation allemande qui ont vraiment jeté un coup de froid sur les marchés. L'inflation est beaucoup plus importante qu'elle a été attendue. Donc, ça n'aide pas. Le CAC a clôturé hier sous la barre symbolique des 6000 points et on ouvre à la baisse aujourd'hui. Donc, entre une économie chinoise qui ne redémarre pas et une récession mondiale qui ne dit pas son nom mais qui se profile de plus en plus, je vous propose de focaliser sur deux valeurs qui ne connaissent pas la crise et font partie de notre liste High Five en attendant l'annonce de Jérôme Powell ce soir.
Alors, on rentre effectivement dans le détail. Roche-Beaubois, que vous vouliez mettre en avant?
Oui, effectivement. Alors, une petite valeur, mais le secteur du luxe ne connaît pas la crise. Effectivement, et Roche-Beaubois, spécialiste de l'ameublement haut de gamme, le prouve. Les frais de transport et les dépenses en communication ont bien augmenté, mais l'effet change et mix géographique ont joué à plein sur le premier semestre, qui a été d'excellentes factures. Donc, le façage des commandes devrait d'ailleurs se traduire par un plus gros effet sur le deuxième semestre. Deux points forts à retenir sur la valeur. Le groupe, en fait, travaille à marge constante et les hausses de prix sont régulièrement passées et non pas annuelles uniquement. Donc, sans impacter la dynamique qui reste très forte, notamment sur le continent US et Canada. Deuxième point fort également, 100% des coûts sont en euros, tandis que 30% des ventes sont facturées en dollars américains. Donc, scénario idéal dans un contexte de renchérissement, bien évidemment, du billet vert. Nous confirmons globalement une croissance de la top line de 17% pour l'année, accompagnée d'un rendement free cash flow qui est plutôt attractif, autour de 10%. À noter, bien sûr, que le scénario n'est pas parfait puisque le titre manque de liquidité du fait d'un flottant trop restreint. Mais ça reste néanmoins une valeur, je trouve, particulièrement intéressante.
Voilà pour Roche-Beaubois. Et puis, vous vouliez aussi mettre en lumière Reworld.
Oui, tout à fait, qui fait partie de notre liste High Five également. Alors, ils vont publier leurs résultats du premier semestre ce soir. Ici, on joue plutôt la valeur sur la base d'un S1 qui devrait s'avérer plutôt résilient. Nous attendons une bonne dynamique sur le B2B avec la montée en puissance du marché digital français. Et également la poursuite de la hausse des prix sur le B2C. Un résultat très bon qui a déjà été publié pour TradeDoubler qui reporte une hausse des revenus de 14% et une marge EBITDA relativement stable en progression de 0,3 points. Mais surtout, en fait, c'est le potentiel sous-évalué de la nouvelle acquisition Unify. La société a été achetée pour 70 millions d'euros. Elle inclut 12 marques, dont de très belles références comme Marmiton, Dogdissimo ou les jeux vidéo Game Cult. Pour un chiffre d'affaires globalement de 60 millions d'euros avec un EBITDA à l'équilibre, vu l'efficacité du groupe Reworld, on estime que sous 12-18 mois, on devrait atteindre une rentabilité normative autour des 15-30%. Donc on maintient un préobjectif de 10,30, mais on pense qu'un upside supplémentaire n'est pas impossible de 20%, vu que l'acquisition est particulièrement structurante pour le groupe. Voilà.
Voilà quelques idées à avoir en tête ce matin sur ce marché et sur quelques dossiers. Céline Bourban, donc, depuis Port-en-Par, le marché parisien qui laisse filer 0,04%, 5977 points. Tout de suite, c'est l'Info Éco avec Stéphanie Collo.
BFM Business, l'Info Éco, Stéphanie Collo.
Et à la une, Vladimir Poutine lance un appel à une mobilisation partielle de l'armée. Ça concerne 300 000 réservistes, annonce lors d'un discours à la Nation ce matin. Le président russe laisse aussi entendre qu'il est prêt à user de l'arme nucléaire pour défendre la Russie face à l'Occident. En Allemagne, Berlin nationalise le géant gazier Uniper. C'est le principal importateur de gaz russe. L'accord comprend une augmentation de capital de 8 milliards d'euros. L'entreprise perd 100 millions d'euros par jour. Et dans ce contexte, en France, les entreprises très énergivores sont pour certaines obligées de stopper leur production. C'est le cas de Duralex. La facture énergétique représente désormais 46% du chiffre d'affaires. Pour José Luis Lacuna, le PDG de Duralex, la situation est plus grave que pendant le Covid. Il était l'invité de Good Morning Business ce matin.
On avait une ligne de production, c'était un confinement, on va dire, humain. Les gens venaient pas travailler. Aujourd'hui, on est plutôt dans ce que j'appelle, moi, un confinement énergétique. Ça n'a absolument rien à voir et c'est effectivement un peu plus grave. Mais moi, je pense que les sociétés industrielles, aujourd'hui, s'ils ont des devoirs à faire quand même, hein, il faut réduire la consommation énergétique, il faut mettre en place des mesures d'efficience énergétique, c'est ce qu'on met en place chez Duralex, moins 20% de consommation énergétique cette année, donc il faut que toute la société soit responsable et mette en place rapidement ces mécanismes, parce que sinon ça va être impossible de produire dans le futur.
Schneider Electric rachète l'anglais Aveva. Le groupe lance une offre sur 41% du capital qu'il ne détient pas encore, valorisant l'éditeur britannique de logiciels à un peu plus de 10 milliards d'euros. Xavier Niel fait son entrée au capital de Vodafone. Le fondateur d'Iliad acquiert 2,5% de l'opérateur britannique. L'opération se fait via son véhicule d'investissement Atlas Investissement. Le succès de la French Tech ne se dément pas. Les levées de fonds progressent au premier semestre, avec 362 opérations pour un montant de près de 8,5 milliards d'euros, soit une hausse en valeur de 63% par rapport à l'année dernière, selon le dernier baromètre EY. C'est la plus forte progression en Europe devant l'Allemagne. Et illustration de cette bonne santé de la French Tech, InnovaFeed lève 250 millions d'euros. La start-up produit des ingrédients à base d'insectes destinés à l'alimentation animale et humaine. Et puis The Plug, spécialiste des bornes de recharge pour voitures électriques, lève lui à 240 millions d'euros. Son directeur général sera l'invité de Sandra Gandouin dans 60 minutes business. Ce sera à la mi-journée, Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Collot qui nous accompagne chaque matin pour suivre cette actualité économique. Le marché parisien qui perd 0,12%, 5972 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé avec autour de la table ce matin Hortense Lacroix. Bonjour Hortense.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être là pour Financière Arbevel et Alexandre Aizé. Bonjour Alexandre.
Bonjour Cédric.
Pour Richelieu Gestion. D'abord, votre sentiment sur ce marché, sur ces tensions qui sont quand même très fortes. Il y a la réserve fédérale, on va en parler beaucoup. Il y a cette surenchère russe. Et pourtant, on a réussi quasiment à revenir à l'équilibre, Hortense. Où est-ce qu'on va chercher les capacités de ne pas trop s'éloigner des 6000, de quand même tenir, entre guillemets, malgré ces avalanches de mauvaises nouvelles parfois?
Alors on a quand même aujourd'hui effectivement retrouvé l'équilibre, mais depuis le pic du rebond de l'été, on a quand même dégringolé de façon assez forte, à la fois sur le marché actions et sur le marché obligations. Et c'est un petit peu nouveau dans un contexte où on a quand même peu d'actifs pour se mettre à l'abri. Mmh. C'est un marché qui peut-être aujourd'hui retrouve son équilibre parce que sans doute 100% des attentes sont pour 75% de hausse de la Fed. Donc on a peut-être des attentes qui sont déjà bien ancrées dans le marché. 75, le marché attend encore 75 la prochaine rendez-vous, puis 50 BP. Donc, point de base de hausse, le rendez-vous d'après. On est quand même déjà sur des attentes qui sont assez... on a déjà pricé beaucoup de choses en termes de détérioration de la conjoncture avec des taux 10 ans américains qu'on voit déjà arriver à 4,50. On voit déjà arriver une récession. Si on regarde un petit peu ce que price actuellement le niveau du marché action en Europe, on est déjà sur des baisses de BPA pas loin de 10% en 2023. Donc, bon, peut-être aussi qu'on a une saturation de mauvaises nouvelles qui font que le marché a déjà bien encaissé tout ça.
Comment voyez-vous les choses, Alexandre ?
Disons qu'il y a déjà un aspect un peu technique. Ce matin, on a réatteint les plus bas du mois de juin, qui était quand même un niveau qui était
ça peut jouer.
Important. Et donc, on a rebondi sur ces plus bas où certains investisseurs essayent d'une certaine manière de jouer le rebond, même si j'aime pas trop ce terme. Et ça permet de rebondir. Après, ce que l'on voit depuis 3-4 mois, c'est vrai qu'il y a des mauvaises nouvelles. Vous parliez de la Russie, on va en parler, de l'Europe, etc. On voit ce qui drive le marché, ce qui conduit le marché, c'est la Fed. Quand la Fed est beaucoup plus au quiche et elle anticipe, elle anticipe des taux beaucoup plus importants dans le futur, eh bien effectivement, d'un coup, ça met un impact sur les valorisations. On l'a vu à Jackson Hole. Finalement, c'était préparé, mais c'est Jackson Hole qui a été vraiment l'élément catalyseur d'une accélération de la baisse et finalement de l'annulation de l'été que l'on avait eu. Et cet été, c'était aussi la Fed et les chiffres d'inflation du mois de juillet qui avaient permis de faire remonter le marché. Donc, de toute manière, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau géopolitique et économique dans le reste du monde. Le seul driver, c'est la rhétorique de la Fed de ce soir, savoir si oui ou non la Fed veut encore limiter et mettre un coup sur la consommation, ou alors elle décide que, enfin, notamment le vrai sujet, je pense que c'est l'immobilier, va avoir un impact important.
Alors, 75 ou 100 points de base?
Alors c'est effectivement la question, 75 ou 100 points de base. Le marché est plutôt majoritairement 75-50. Si c'est 100, c'est surtout surtout le discours qui accompagne qui sera déterminant finalement. Ouais.
Et les dot plots.
Exactement. Vous avez même certaines personnes qui vous disent que si ce n'est que 75 de hausse ce soir, ça pourrait être décevant parce que finalement tout le monde veut qu'on y aille très vite et qu'on jugule cette inflation une bonne fois pour revenir sur des niveaux de prime de risque qui soient beaucoup plus stables et qu'on restabilise un petit peu tout cet environnement boursier qui actuellement se cherche. Donc effectivement 75 ou 100 à la limite peu importe dès lors qu'on sait que la direction c'est qu'on n'a pas fini encore les hausses.
75 ou 100 ?
Bah, d'une certaine manière, c'est vrai, peu importe si c'est 100, le tout, c'est le taux terminal. Si on est à 4-5 de taux terminal, ça va, mais si c'est 100 pour aller à 5 de taux terminal aux États-Unis.
En clair, là, est-ce que Jerome Powell se transforme en Volcker, quoi?
Un peu, et quand on voit les derniers chiffres d'inflation, on sait que, enfin, nous, notre analyse, c'est que le marché action a déjà purgé ces incohérences. Après, il y a des purges qui doivent être faites dans d'autres marchés, et notamment aux États-Unis, le marché immobilier. En fait, on voit les chiffres d'inflation, les locations qui augmentent très très largement, les prix de l'immobilier qui sont encore très hauts. On a des chiffres en retard, mais il faut vraiment que cet impact soit maîtrisé, parce que l'immobilier, c'est vraiment ce qui ancre l'inflation dans un pays, parce que les vérités salariales sont là, etc. Donc, le tout, c'est de savoir si Powell considère que l'immobilier est à un tournant, ou alors qu'il faut encore taper du poing pour casser c'est ce qu'on peut appeler, d'une certaine manière, une bulle spéculative sur l'immobilier américain.
On voit dans vos explications respectives que finalement 75 ou 100, il n'y a plus trop d'incertitudes, le tout c'est de monter, et on sait ce que n'aiment pas du tout les marchés, c'est justement l'incertitude. Et ce matin, il y a quand même une grosse dose d'incertitude qui a été jetée par Vladimir Poutine, mobilisation en tout cas 300 000 hommes a priori mobilisés en Russie, l'évocation du nucléaire, et pourtant le marché semble passer outre là encore ce matin.
Je pense que le marché a du mal à prendre en compte un risque géopolitique qui est complètement exogène, donc personne ne tape sur un arrêt rapide du conflit russe, donc quelque part c'est ça que nous dit le marché quand ça s'envenime, on voit pas de pire. La crise énergétique est là, elle est là pour durer, tout le monde l'a prise en compte de cette façon là l'escalade après vers quelque chose de nucléaire difficile à pricer. Tant que
mais
ça ne se réalise pas.
Pourtant, à des moments, quand ce mot avait été prononcé, les marchés avaient assez violemment réagi. Pourquoi ce matin, finalement, ça fait pchit, entre guillemets?
Il y a une assez bonne résilience des marchés qui ont déjà pris en compte. Déjà, à l'époque, le marché avait pris en compte cette information. Mm-hmm. Et finalement, ils ne la prennent pas en compte une deuxième fois. Après, pour l'instant, c'est juste des tensions géopolitiques. Évidemment que Vladimir Poutine essaye de continuer son chantage sur l'Occident et surtout de gérer sa population en interne qui commence à un peu se retourner, en tout cas, quand on voit les indicateurs d'opinion. Donc, lui a intérêt à aller vite. Le fait que cette guerre se larve, c'est très compliqué pour la Russie. On va voir ce qui est intéressant dans ce schéma-là, parce que c'est l'attitude, surtout de la Chine, plus qui peut être à la fois l'élément perturbant pour la géopolitique mondiale et à la fois finalement l'élément qui va être vraiment le centre des négociations et d'une solution que l'on pourrait trouver dans l'avenir. Donc ce qui va être important, c'est pas ce que dit Vladimir Poutine, parce qu'il dit tout et son contraire, mais ce qui est important, c'est l'attitude de Xi Jinping. Ils se sont rencontrés la semaine dernière, d'ailleurs c'était la première fois que Xi Jinping sortait de Chine, et donc on va voir si la Chine joue l'apaisement. Au vu de leur croissance économique, enfin de leurs problèmes économiques, ils ont tout intérêt à mettre en place un commerce mondial, en tout cas à remettre en place les directives sur un commerce mondial qui peut leur permettre de rebondir en termes économiques. Mais ça va être cette réaction-là. Et effectivement, la menace nucléaire, ça créerait une situation qui peut-être isolerait plus la Russie que le contraire.
Bon. À l'inverse, la semaine dernière, on n'a pas tellement eu de réaction positive au fait qu'on avait l'impression que Poutine n'était pas du tout adossé ni par la Chine ni par aucune... ça aurait pu être aussi quelque chose de nature à faire rebondir le marché. Donc on a l'impression que le marché, en fait, est passé un peu à autre chose, j'ai envie de dire, avec cette incertitude qui est extrêmement difficile à gérer sur le plan géopolitique et qu'on s'accroche un petit peu, effectivement, aux chiffres économiques au jour le jour.
Si la Fed met 75 ou 100, enfin bref, qu'elle continue à soutenir cette cadence dans la remontée, s'il y a cette préoccupation sur la Russie, ça ne va pas arranger les affaires de la BCE.
Non.
C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on le dit souvent, il y a deux inflations qui sont très très différentes. Quand on regarde les composantes d'inflation américaine...
Mais on est condamné à marcher aussi au pas de la cadence américaine.
Certes, sinon on voit effectivement déjà des tensions terribles sur les taux, sur les taux de change, pardon, entre l'euro et le dollar. Donc aujourd'hui, le dollar a plus de valeur que l'euro. C'est inédit depuis la création de l'euro. Et effectivement... Aux États-Unis, on comprend bien l'attitude de la Fed qui essaie de taper sur la demande, hein, puisqu'on a une inflation qui est à plus de 2/3 tirée par des composants de demande. C'est beaucoup plus contestable côté européen, où on a à l'inverse pratiquement 2/3 qui sont tirés par des composants d'offres, avec essentiellement la crise énergétique devant nous. Ça aura certainement un effet, mais on a envie de penser que même si on amène une récession en Europe, on n'aura pas réglé notre problème d'inflation qui est largement d'origine énergétique.
Pas facile, hein.
Disons qu'en fait, la Fed fait son travail pour l'économie américaine et de toute manière, les autres banques centrales et notamment la BCE est obligée de suivre. Alors que là, on va certainement être en récession. L'inflation est effectivement une inflation exogène. C'est le gaz, le pétrole qui commence à s'installer. Donc pour être crédible, pendant des mois, la BCE nous a expliqué que l'inflation allait rebaisser. Au moment où la Fed disait non, elle va être un peu plus longue que prévu, la BCE disait non, elle va rebaisser et finalement elle est très très en retard. Donc en fait, finalement, ce que fait la Fed, c'est mettre une pression supplémentaire sur la BCE. Parce que si la BCE fait rien, l'inflation va effectivement être de plus en plus importante. Je rappelle quand même que l'inflation, nous en France, on est à peu près à 6,8, hein, mais dans les pays baltes, ils sont à 25%. Donc on voit bien la différence.
On a vu l'Angleterre, on a vu...
Oui, mais en Europe, il y a des inflations qui sont quand même qu'on n'imagine pas dans nos propres pays, avec des problématiques politiques qui sont fortes. Hein. Il n'y a pas loin de 6 ou 7 élections au mois d'octobre, que ce soit législative, présidentielle. Il y a notamment la Bulgarie, où vraiment la cohésion européenne au mois d'octobre, par ces élections, va être testée et on va voir comment ça va se passer au niveau de la BCE.
Un petit mot aussi de la Chine. Alors, vous en avez dit, Alexandre, un mot tout à l'heure pour l'aspect géopolitique, mais il y a aussi l'aspect économique, l'aspect politique tout court sur la question chinoise. Vous regardez, vous, la Chine, vous considérez que c'est une zone qui est encore un domaine d'investissement ou pour le moment, prudence, méfiance, enfin, comment...
La Chine est un facteur essentiel de la croissance mondiale. Et on a vécu des décennies avec la Chine comme moteur de la croissance mondiale et c'est la première fois après les révisions de croissance qui ont été faites hier, que la croissance attendue de la Chine sera inférieure à l'ensemble de la région Asie. Donc on a un vrai problème centré sur la Chine qui est certainement lié à cette politique zéro Covid qui amène à des fermetures régulières d'usines. La bonne nouvelle quand même par rapport à ça, c'est que c'est un facteur de désinflation importée. On devrait quand même à terme avoir des industriels chinois qui ont du mal à trouver des débouchés sur leur marché domestique, qui alimentent des importations côté Europe et donc nous amènent une désinflation. On a la monnaie chinoise. On rappelle que au moment où il y avait des tensions Chine-États-Unis pendant Trump, on avait eu la monnaie chinoise qui avait atteint déjà des niveaux aussi bas que les niveaux actuels. Et tout le monde criait au loup en disant « mais attention, ça c'est de la déflation à coup sûr ». On fait pas de bruit aujourd'hui, mais ça devrait être un facteur dans l'environnement actuel relativement positif parce que ça devrait un petit peu apaiser l'inflation. Et toujours est-il que quand on regarde le prix des métaux, le prix du fret, on a forcément en ligne de mire la situation chinoise qui est déterminante pour beaucoup de choses dans l'économie mondiale.
La Chine
Sur la Chine, sur le papier, c'est une bonne idée, parce que c'est vrai qu'une banque centrale qui est accommodante, c'est à peu près la seule
option.
Une devise baisse, donc normalement, ça devrait redonner de la compétitivité, des aides aux ménages, et pourtant, ça ne marche pas. Donc, il faut se poser la question. Une des réponses, c'est qu'en fait, quand vous avez une crise immobilière, Et donc, ça fait le reflet par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, éviter une crise immobilière, on a du mal à redémarrer parce que c'est un effet richesse des ménages qui fait qu'il n'y a plus de consommation. En tout cas, on a des fortes difficultés à relancer la consommation. Donc, l'effet zéro Covid, effectivement, il va pas, mais ça, c'est, on va dire que le Covid est en train quand même, la situation sanitaire, quoi qu'on en dise, elle est en train de s'atténuer de manière assez importante. Donc, on n'aura plus, il y aura certainement un équilibre qui va se faire, mais ça sera beaucoup plus long que prévu. Bon, il y a ce congrès.
Mais c'est ça, il y a aussi un gros aspect politique.
Bah, tous les investisseurs avaient depuis quelques mois en ligne de mire ce congrès en disant il faut que ça se passe bien jusqu'au congrès de toute manière. Manifestement, c'est plus on s'approche, plus ça se passe mal. On a des chiffres juste sur la Chine. On parlait des matières premières. Effectivement, c'est déflationniste parce que les métaux baissent. Il y a un métal qui, enfin, un composant qui est compliqué. La croissance chinoise a évolué, la consommation a augmenté, notamment avec les véhicules électriques. Mais ça a fait flamber le lithium, par exemple. Donc le lithium est en train de flamber, et donc ça, c'est quand même un élément dont on a besoin dans le monde pour les voitures électriques. Donc si la Chine redémarre trop rapidement, eh bien effectivement, ça posera encore des problèmes de goulot d'étranglement sur l'automobile et l'électrique, qui est le point central de la transition écologique, quand même.
Voilà donc ce survol macroéconomique. Rentrons un peu dans le marché aussi et dans la micro, dans la vie des boîtes, etc. Comment est-ce que vous pressentez la fin de l'année ? Parce que nos auditeurs, nos téléspectateurs, finalement, ils s'en sont bien sortis cet été. Il n'y a pas eu de catastrophe. Personne n'a vu son portefeuille s'écrouler. Donc chacun se dit, bon, il faut que j'essaye de terminer l'année en sauvant les meubles, quoi. Enfin, de bonne manière. Alors, comment est-ce que vous voyez les choses chez Herbevel ?
On a vu une saison de résultats semestriels cet été qui effectivement a été un soulagement pour le marché, parce qu'en fait les sociétés sont un indicateur extrêmement retardé par rapport à ce qu'on peut attendre sur le plan macroéconomique. Et donc effectivement, voir toutes ces sociétés qui non seulement avaient des taux de croissance extrêmement élevés, parce que vous avez une croissance nominale avec l'inflation qui est plus élevée qu'habituellement, mais en plus qui arrivaient à préserver leur marge, parce que toutes les sociétés vous disent quand même qu'elles sont extrêmement étonnées par la facilité avec laquelle elles arrivent à passer les hausses de prix. Ce qui, dans une lecture macro, n'est pas très positif. Ça veut bien dire que l'inflation est installée. Ça veut dire qu'effectivement, tout le monde voit son pouvoir d'achat arriver à une baisse. Ça veut dire qu'il y a des inflations salariales qui arrivent, et donc ce qu'on appelle des effets de deuxième tour. Donc l'inflation a l'air quand même assez ancrée. Alors, à partir de maintenant, au niveau du troisième trimestre, on aura sans doute moins cette euphorie qu'on avait eue au premier semestre. On a quand même des secteurs qui commencent à vraiment marquer le pas, mais c'est loin d'être généralisé. On a le secteur de la construction en Europe qui a de façon assez évidente un arrêt net de ses commandes. Les promoteurs immobiliers qui n'arrivent plus à prévendre leurs programmes, qui les retardent. Des matériaux de construction qui, du coup, sont en surstockage. Donc, on a toute cette dynamique très mauvaise sur la partie bâtiment. On a sur la partie consommation discrétionnaire également des signaux importants d'un arrêt net de la consommation. Certaines enseignes comme Maison du Monde, par exemple, vous expliquent qu'ils ont une fréquentation en forte baisse dans leur magasin. Seb, qui a des problèmes de surstockage. Mais c'est loin d'être généralisé. Les secteurs de distribution alimentaire qui voient déjà un panier moyen qui a tendance à se baisser, à se concentrer sur des biens de première nécessité. Mais vous avez encore un secteur industriel qui vous dit que les hausses de prix passent, que les carnets de commandes sont au plus haut, qu'à ce stade, on ne voit pas d'annulation de commandes. Alors, ils sont tous avec un exercice extrêmement difficile d'agilité pour être prêts à couper les coûts quand ce sera nécessaire, mais tout en vous disant que pour l'instant, les carnets de commandes sont hauts, il s'agit de passer les hausses de coûts et donc il s'agit de livrer les carnets.
Donc, ça veut dire qu'il faut aller chercher presque boîte par boîte pour voir si effectivement, il y a un chouillette de pricing power et...
Absolument. Alors, le pricing power, du coup, est assez généralisé, mais il faut aller chercher boîte par boîte, parce qu'effectivement, certains secteurs commencent à marquer des coups d'arrêt, d'autres devraient les voir arriver bientôt, puis vous avez les gagnants de la situation aussi, avec des producteurs d'énergie, des producteurs d'engrais, voilà, il y a toujours quelques petites niches. Voilà.
Des poux dans la tonsure avec les super profits. Comment est-ce que vous voyez un petit peu cette fin d'année, ce profil ?
La fin d'année, effectivement, il y a plein d'éléments qui amènent à être noir, c'est vrai. Alors, il y a quand même deux choses. Quand on voit voit notamment en termes techniques, toutes les positions de couverture sur les actifs, elles sont au maximum historiquement, que ce soit sur le Standard & Poor's, sur l'Eurostock, etc. Sur les devises aussi, que ce soit sur l'euro, sur le yen, elles sont vraiment très tendues. Alors effectivement, si on a, et d'ailleurs cet été c'était le cas, une ou deux bonnes nouvelles, vous allez avoir des rallyes de marché, mais très très forts, comme on a eu cet été. Mmh. Alors, et donc le risque, c'est d'être couvert, parce que c'est là où vous allez rater ce rallye, avec des marchés qui ont beaucoup encore, les gérants ont beaucoup de liquidités, et les marchés sont très couverts. Et puis la deuxième chose dans ce marasme un peu... bonne nouvelle, en tout cas pour les prochains mois. Rappelons-nous quand même qu'après le Covid, les entreprises ont haussé leurs marges de manière très significative en se structurant et en changeant leur méthode de digitalisation, leur méthode de distribution, etc. Ce qu'on est en train de voir tout à l'heure quand on voyait sur votre émission sur Duralex, qu'est-ce que font les entreprises? Elles sont en train maintenant d'optimiser leur consommation énergétique. Mais quand on va revenir à la normale? En fait, ces entreprises-là, elles ne vont pas retomber dans des augmentations de consommation énergétique. Et en fait, potentiellement, les entreprises sont encore en train d'optimiser leur opérationnel, d'optimiser leur bilan. Et ça, dans une situation qui peut revenir à la normale, parce que ça peut l'être, en fait, ça crée un levier opérationnel pour les entreprises qui est, d'une certaine manière, équivalente à celle que l'on a vécue pendant le Covid.
Du coup, rapidement, qu'est-ce qu'on fait avec son portefeuille? On attend, on se génère une poche de liquidité pour saisir d'éventuelles occasions, ou au contraire on garde le couteau entre les dents?
Je pense que ça a déjà beaucoup baissé, qu'il y a un consensus énorme maintenant sur une récession, sur des taux à 4,50 de la Fed, et que c'est extrêmement dangereux de ne pas être exposé à ce stade.
D'accord, donc plutôt offensif.
Nous, on est effectivement sur la neutralité. On dit qu'il ne faut pas être sous-exposé parce qu'à ce stade, par rapport à les explications que j'ai données. Et puis, c'est vrai qu'on préfère un peu la zone américaine qui est très dirigée par la Fed. Autant on subit, on est plutôt spectateur en Europe, autant aux États-Unis, la Fed est vraiment acteur et avec un problème énergétique qui est quand même assez loin des États-Unis, en tout cas, qui est plutôt bénéfique pour la croissance économique américaine.
Merci à tous les deux, Hortense Lacroix pour Financière Arbevel et Alexandre Aizé pour Richelieu Gestion, étaient autour de la table pour Regard Croisé. Le marché parisien, lui, fait toujours du surplace, moins 0,07, 5975 points. Qu'en dire graphiquement? On retrouve dans un instant, depuis boursicoté.com, Gilles Santacreux. À tout de suite.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
On vous accompagne jusqu'à midi et chaque demi-heure débute par un coup d'œil sur les marchés fondamentaux ou techniques. À 11h30, c'est un trader qui est là à votre service. Gilles Santacreux depuis boursicoté.com. Rebonjour Gilles. Bon, on a l'impression qu'on s'est échoué juste sur la ligne de flottaison.
Ah. La ligne de flottaison, encore faut-il réussir à la quantifier. Alors, si on fait le point un petit peu sur le début justement de cette séance, on a ouvert avec un gap baissier. Ce gap baissier, il a été comblé. On est venu marquer au plus bas des niveaux qui avaient déjà été marqués sur les futurs hier soir aux alentours de 19h45. Au niveau des futurs, on a marqué 5918, on est venu chercher au plus bas aux environs de 5915 sur le CAC. Donc on est venu confirmer ces cours, on est venu combler le gap. Chose que je dis souvent, c'est peu importe le comblement du gap, c'est surtout la manière dont ce gap est comblé qui est intéressante pour observation, pour développer l'analyse technique. Et là, ce que l'on peut voir, c'est comme vous le disiez justement, suite au comblement, on s'est échoué, c'est-à-dire on ne bouge plus. On est arrivé sur la plage, on est toujours sur la ligne de flottaison, mais en fait, on est totalement immobile. On est tout de même dans un choc. Je veux dire, les déclarations de Vladimir Poutine ce matin ont provoqué une hausse du yen, une baisse de l'euro. On a eu d'ailleurs une très belle position en algorithme sur la baisse de l'euro-yen. On a eu aussi un impact sur le pound, hein, sur la livre sterling et sur la paire GBP-USD. Le yen est quasiment revenu au niveau d'où il était avant la news. Par contre, sur l'euro et le GBP, on reste sur une pression baissière. On est sur l'euro-dollar aux alentours des 0,99 actuellement. On a eu aussi un impact sur le pétrole. On est vraiment dans une phase d'attente. Une chose qui est intéressante, c'est une note de Crédit Suisse que j'ai vu passer ce matin, en fait, qui nous dit qu'une hausse de 50 points de base serait un énorme choc négatif pour le dollar américain, alors qu'une hausse de 100 points de base serait une hausse immédiate, mais beaucoup moins, beaucoup moins marquée. Et en fait, la question serait serait un peu un défi sur les autres banques centrales pour essayer de dire, bon, en gros, est-ce que vous êtes capable de me suivre? Et on a l'impression qu'on est rentré un petit peu dans une escalade justement au niveau de cette hausse des taux. Et c'est vraiment la sémantique qui sera employée par Jérôme Powell qu'il faudra s'attacher à observer ce soir, puisque même si on a 75 points de base, ce qui est important, c'est la perspective, la continuité de cette hausse de taux qui sera importante justement pour les marchés. Donc, pour l'instant, effectivement, on est dans une phase d'attente. Le CAC 40 semble avoir trouvé son niveau d'équilibre. Du point de vue des niveaux dans la journée, on a une résistance interne à 6035 points qui peut faire figure d'objectif en cas de léger rebond technique avant justement les chiffres de la Fed. On a une résistance à 6137, mais c'est 6143, le comblement du gap du 16 septembre, qui pourrait nous donner un signal fort en cas de hausse de l'indice parisien. Tant que l'on est sous ces niveaux, ça reste baissier, l'objectif reste le même, 5880, et vraisemblablement, eh bien, c'est Jérôme Powell et donc la Fed avec sa hausse des taux qui va débloquer tout ça.
Ça concerne bien évidemment notre CAC 40. Simplement, si on parle de la Fed et de l'impact que ça pourrait avoir, il faut peut-être dire aussi un petit mot des devises. Quels sont les seuils, les supports que l'on peut identifier à quelques heures du verdict de la Fed?
Alors, au niveau de l'euro-dollar, on est actuellement sur 0,99. On a matérialisé un support sur lequel nous avons eu trois contacts à 0,9880 sur la paire de devises euro-dollar. En cas de hausse de 100 points de base, on pourra avoir sur l'euro-dollar une poursuite du mouvement baissier en direction des 0,97. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on a une hausse de 100 points de base au niveau du dollar américain, cela va augmenter l'écart de taux qu'il y a entre l'euro et le dollar et donc va favoriser une poursuite du mouvement baissier. C'est un petit peu ça ce qu'on attend. On a eu une hausse au niveau de la BCE de 75 points de base. Si la Banque fédérale donne une hausse de 75 points de base, l'écart restera le même. Par contre, si on a une hausse de 100 points de base, clairement, on va avoir un écart de taux qui va augmenter et qui va donc favoriser la baisse de la paire de devises euro-dollar. On peut noter la livre sterling qui est sur des niveaux qui n'ont plus été vus depuis plus de 30 ans et il semblerait que ce mouvement baissier soit en train de se confirmer.
Merci beaucoup Gilles Santacreux, donc, et ce CAC 40 qui résiste aux menaces russes et qui se prépare bien évidemment pour la réserve fédérale. On est repassé au-dessus du niveau de flottaison dont on parlait au début de ce regard technique sur le CAC, puisque l'indice progresse de 0,11%, maintenant 5986 points, l'eurodoll est à 99,15.
BFM Business, BFM Patrimoine, matières à réflexion.
Le plus souvent, dans un cadre familial, les parents peuvent avoir pour habitude de donner de l'argent à leurs enfants. Mais il peut arriver que dans certaines circonstances, des parents préfèrent prêter de l'argent plutôt que d'en donner véritablement. Alors, quelles sont les circonstances en question et dans quel cadre, notamment fiscal, quel est le cadre, notamment fiscal, qui entoure les prêts familiaux de sommes d'argent? L'expertise de Sandrine Kilissi, qui était avec nous il y a quelques jours pour l'ingénierie patrimoniale de Pictet Wealth Management. On l'écoute.
Exactement. En fait, là, en ce moment, on parle beaucoup de la hausse des taux au niveau des prêts, de la difficulté qu'il peut y avoir pour...
à obtenir son prêt, le taux d'usure.
Le prêt immobilier, etc. Et c'est vrai qu'il peut être tentant, enfin on peut imaginer tout à fait qu'un enfant par exemple puisse aller trouver ses parents, ses grands-parents pour obtenir un prêt de leur part, puisqu'il n'est pas obligé non plus de prévoir un intérêt dans un cadre familial, il n'y a pas d'obligation en tout cas. Donc ça peut... Voilà. Pourtant, en ce moment, on est dans un contexte où on pourrait voir ce type de demande.
Dans le cadre familial, pourtant, on s'attend plutôt généralement à ce que l'argent soit donné, non ?
Alors, c'est tout à fait vrai, effectivement. Dans un cadre familial, généralement, les parents auront plutôt tendance à vouloir donner que prêter. Mais il y a des cas dans lesquels, en réalité, le prêt peut être une bonne alternative.
C'est-à-dire, dans quelles circonstances un parent, que ce soit parent ou grand-parent, enfin bref, un ascendant préfère prêter plutôt que de donner?
Alors en fait, il y a plusieurs situations. Il y a celle tout d'abord où on va voir par exemple un enfant qui a un besoin particulier et l'autre non. Donc dans ce cadre-là, plutôt que de lui faire une donation, on va préférer lui prêter une somme d'argent de manière à ne pas déséquilibrer les rapports entre les deux, notamment dans le cas de la succession à venir. Donc ça, c'est déjà un premier point. Après, on a des parents qui souhaitent responsabiliser leurs enfants. Et puis on peut avoir d'autres cas dans le cas duquel les parents ont déjà pas mal donné et n'envisage pas de faire des donations supplémentaires, surtout quand même qu'une donation supplémentaire, ça va avoir un coût quand même, on va avoir les droits de donation.
Bon, donc on peut partir sur l'idée d'un prêt dans le cadre familial, mais il y a, et c'est pour ça que vous nous disiez attention au formalisme, le risque que l'administration fiscale dise « Eh oh !» pas me prendre pour un lapin de 3 semaines, on voit bien que c'est une donation déguisée, non ?
Alors, effectivement, il peut y avoir des cas dans lesquels l'administration va chercher à démontrer qu'en réalité, il n'y a pas un prêt, mais une véritable donation. Mais on a vu des cas dans lesquels, également, l'administration cherche à requalifier le versement de la somme d'argent en revenu. Alors, dans l'hypothèse d'une donation, tout d'abord, alors, il faut qu'elle démontre l'existence d'une intention libérale. Ça, c'est déjà le premier point. Donc, cette intention libérale, elle va déjà la repérer si je n'ai pas de remboursement, l'absence de remboursement. Mais comment elle va faire ? En fait, elle va s'appuyer sur des faits. Elle va s'appuyer sur des faits. Elle va employer la fameuse méthode dite du faisceau d'indices. Donc, en fait, elle va aller chercher des indices de droite et de gauche qui, pris dans leur ensemble, montrent qu'il n'y a effectivement aucune intention libérale. Alors, ça va être le cas, par exemple, si l'enfant n'est pas en capacité de rembourser. Alors, un indice qui n'est pas suffisant, mais comme on le disait tout à l'heure, là, on est dans un cadre familial, mais c'est vrai que l'existence d'un lien de parenté ou d'un lien d'affection, c'est déjà un indice. C'est pas suffisant, mais c'est un indice. Donc, comme je vous disais, si l'enfant n'est pas en capacité de rembourser, voilà, il y a un sujet. Mais ça va être autre indice, ça va être la situation du prêteur. Si celui-ci est très âgé, par exemple des grands-parents, et que, vu ce qui lui reste à vivre...
Si on part sur un prêt de 20 ans pour quelqu'un qui a 96 ans...
C'est ça. Là, effectivement, on ne pourra pas objecter qu'il n'y a pas eu d'intention libérale.
Bon. Dans quel cas, justement, parce que vous nous avez dit, ils peuvent considérer ça comme un revenu aussi.
Exactement. Il y a des hypothèses dans lesquelles l'administration va tenter de démontrer qu'en fait, le versement de la somme d'argent est un revenu taxable chez le bénéficiaire de la somme. Alors, on va avoir ce type de tentation lorsque l'administration va considérer qu'il y a une relation d'affaires entre les deux personnes.
Oh, ouais, une relation d'affaires, c'est-à-dire ?
Alors, en fait, la relation d'affaires, elle va se caractériser si entre les deux personnes, j'ai une relation économique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une contrepartie lucrative, en fait, au versement de ces sommes d'argent. Alors, quand on dit ça, on dit c'est quand même un peu curieux, surtout dans un cadre familial. On va prendre deux exemples. Le premier exemple, ce sont des exemples qui ont été jugés. Voilà, premier exemple, c'était l'hypothèse, en fait, d'un fils qui avait sa société et qui employait son père. Et puis, à côté de ça, le fils a prêté de l'argent à son père. Et bien, dans ce cadre-là, le juge a considéré que ce prêt, c'était un complément de rémunération. Tout ça parce qu'il y avait une relation d'affaires entre le père et le fils. Et un autre exemple, on avait deux frères associés dans une même société. Et un des frères qui a prêté une somme d'argent à l'autre, eh bien là, il a été considéré que c'était un revenu taxable chez le bénéficiaire de la somme d'argent. Donc il faut faire attention.
Bon, dans tous les cas, est-ce qu'il y a une façon de pratiquer pour que ce soit irréprochable, que ce prêt familial puisse vivre sa vie de prêt ?
Alors, bon, déjà, la première des choses, c'est qu'il faut s'assurer que l'emprunteur, que l'enfant qui emprunte ou le petit enfant, soit en capacité de rembourser. Déjà, d'accord, ça commence comme ça. Après, il faut s'aménager la preuve. C'est toujours la même chose. Et quelle meilleure preuve que l'écrit ? Il n'y en a pas d'autre. Donc, déjà, souscrire un contrat de prêt, conclure un contrat de prêt entre les parties. Ce contrat de prêt peut être passé devant notaire. Il peut être passé, comme on dit, sous seing privé, c'est-à-dire les deux personnes vont signer le contrat de prêt. Mais par contre, dans ce cadre-là, il faudra aller l'enregistrer à la recette des impôts pour lui donner ce que l'on appelle une date certaine et que ce soit opposable à l'administration fiscale. Ce contrat de prêt, Bon, ce contrat de prêt, déjà, ce serait pas mal, qui prévoit l'objet du prêt. Donc souvent, ça peut être l'exemple...
L'achat d'un appartement.
Voilà, exactement, un apport complémentaire pour l'acquisition effectivement d'un appartement. Il faut que la durée du prêt soit précisée, que les conditions du prêt soient précisées, qu'on ait les échéanciers de remboursement, mais également qu'on ait la périodicité des intérêts s'il y a un intérêt qui est prévu.
Parce que ce n'est pas obligatoire. Hein.
Non, ce n'est pas... du tout obligatoire.
On peut faire un prêt à taux zéro.
Exactement. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est ce qu'on rencontre le plus souvent dans un cadre familial, parce qu'il ne faut pas oublier que les intérêts, après, sont taxés.
C'est ça.
Hein. C'est celui qui prête.
Parce que s'il y a des intérêts, il faut que le prêteur déclare exactement ses revenus, là, pour le coup.
Exactement. Ouais. De la même manière, on va s'aménager la preuve en gardant, du côté de celui qui emprunte, ses relevés bancaires. Donc là, qui vont pouvoir démontrer
prouver
qu'il a
rembourse.
Bien viré, voilà, qu'il a remboursé. Et autre preuve qui est importante, c'est lorsque mon prêt est d'un montant d'au moins 5000 euros, on a un formulaire à souscrire, qui est le formulaire de contrat de prêt, c'est le formulaire 2062. Donc on a également cet élément supplémentaire qui permet de démontrer qu'il s'agit bien d'un prêt.
Et juste, petite virgule, si c'est pour temporiser, par exemple, quelqu'un qui il attendait une rentrée d'argent parce qu'il vendait un bien qui n'est pas vendu, ou bref, et il a besoin, et de l'autre côté, il achetait un autre bien, enfin voilà. Si on a besoin d'une somme, 10, 15...
Prêt-relais, quelque
ouais,
part.
Une espèce de prêt-relais.
Exactement.
Là, pour le coup, il faut aussi aller le déclarer, le ceci, cela, oui. Même si c'est un temps bref et
si
autre.
Si c'est un temps bref, ne serait-ce que la déclaration sur le formulaire 2062 devrait suffire.
D'accord.
Il n'y a peut-être pas obligation de contrat, de prévoir des échéanciers, puisqu'on sait que c'est le coût d'un mois, deux mois.
Ça, ouais.
Mais au moins, remplir le formulaire.
Sandrine Kélissi est l'ingénierie patrimoniale de Pictet Wealth Management qui nous accompagnait il y a quelques jours sur ces questions de prêts familiaux. Tout de suite, on jette un œil sur le marché. Avec ce CAC 40 qui a donc réussi à revenir en territoire négatif, il a remonté la pente tout au long de cette matinée pour parvenir dans le vert, plus 0,17%, 5 989 points. Ailleurs en Europe, on fait encore grise mine pour le moment. L'Eurostock 50 laisse filer toujours 0,1%. Parmi les plus fortes hausses de l'indice en ce moment, on peut citer Thales qui gagne 4,3% à 118,05. Total Énergie, plus de 64 à 49,45, ou encore Téléperformance, plus 1,01% à 271,20. Trois des plus fortes hausses qui sont donc de plus d'1% pour le moment. Du côté des baisses, il reste quand même un petit peu de monde ce matin, avec des baisses marquées. On a 4 ou 5 valeurs qui baissent encore de plus d'1%. C'est le cas de Renault, moins 2,56 à 30,40, ou encore d'Alstom, d'Unibail Rodamco et d'Eurofin Scientifique. Du côté des devises, l'eurodoll est à 99,27 pardon, et le pétrole se négocie contre 92,71. Je vous rappelle le CAC qui grignote 0,17%. On est à 5 989 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la sélection.
La sélection de BFM Patrimoine gérée aujourd'hui par Amandine Gérard. Bonjour Amandine.
Bonjour Cédric, bonjour Jean-François.
En ligne depuis la financière de l'Arc et en plateau Jean-François Gilles pour Erasmus Gestion. Bonjour Jean-François.
Bonjour Cédric, bonjour Amandine.
Merci à tous les deux d'être au rendez-vous de cette sélection. D'abord votre regard sur ce marché qui résiste malgré tout. On ne s'éloigne pas vraiment des 6000, on les a même tenus longuement. Et puis finalement ce matin, face à l'incertitude de la Fed, face au risque russe, eh bien on revient à l'équilibre. Amandine, où est-ce qu'il va chercher ses capacités, ce marché ?
Dans la valorisation, et on le voit également au sein de notre portefeuille, hein, on sent que depuis quelques jours, les marchés européens ont une relative résilience, donc il faut rester prudent. Et ceci pourquoi ? Parce qu'on arrive à des niveaux de valorisation historiquement bas. Il faut savoir qu'en moyenne, le marché européen se traite entre 12 et 13 fois les résultats. Et là, nous sommes plutôt à 11 fois. Donc, même si sur 2023, les analystes s'avèrent trop optimistes, on a une marge de manœuvre par rapport aux valorisations sur les marchés européens, ce qui n'est pas encore le cas sur les marchés américains qui, eux, se traitent à plus de 17 fois les résultats. Et on a vu avec l'avertissement sur résultats de Ford avant-hier soir qu'il y a encore des mauvaises nouvelles à venir sur le marché américain. Donc c'est vrai qu'il fait preuve d'une relative résilience, mais parce que, notamment sur une partie du secteur automobile, nous avons du Stellantis en portefeuille. Je le rappelle, les niveaux sont très attractifs et jusqu'ici, les managements ont un discours relativement constructif.
Jean-François, comment est-ce que vous expliquez que ce marché, finalement, parvienne à s'accrocher, à résister ?
Bon, je crois que les investisseurs sont dans l'attente. Ils n'ont pas envie, le marché a bien baissé. Ils se demandent quel est le bon prix, comme l'a dit Amandine à l'instant. Et ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas parce qu'ils ne savent pas quelle va être la durée de la récession qui est devant nous, d'une part, et le niveau auquel les banques centrales vont monter les taux d'intérêt, d'autre part. Donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes qui ne justifient pas encore de corrections supplémentaires, puisque, par exemple, l'attente des résultats du troisième trimestre est une attente positive. On ne pense pas avoir trop de déceptions. Et c'est dans trois semaines maintenant que les résultats commenceront à sortir. Donc de ce point de vue, on n'est pas encore trop inquiet, mais on se demande ce qui va nous arriver. Donc on attend sur les niveaux, on fait le yo-yo.
Bon, le grand événement économique, en tout cas de la journée, c'est cette réserve fédérale américaine. Alors 75, 100 points de base, vous mettez le billet sur quelle case, Amandine ?
Alors, il est vrai que ce qui s'est passé, le mouvement, très fort mouvement qu'il y a eu sur les taux dans la journée d'hier, pousse à présumer plutôt 100 points de base que 75. Pour autant, à ce stade, hein, on price toujours 75 points de base. Donc, je pense que ce qui serait important ce soir, c'est surtout la tonalité du discours, puisque c'est pas pour autant qu'on sera sorti d'affaire, entre guillemets. Si la Fed annonce peut-être uniquement 75 points de base, mais un allongement de la durée de hausse des taux sur le premier trimestre 2023, le marché pourrait cristalliser également sur ce sujet. Et il est vrai que les derniers chiffres d'inflation aux États-Unis ne montrent pas spécialement de signes de gros ralentissement. Donc la Réserve fédérale doit poursuivre sa politique restrictive.
75 ou 100 points de base, Jean-François ?
Je dirais que c'est pas le plus important, Amandine l'a dit aussi, et je crois que c'est très vrai. Ce qui est le plus important, c'est de savoir jusqu'où on va aller dans l'application de ce médicament. Puisque, en quelque sorte, l'économie est malade de l'inflation. Au début, les médecins, à savoir les banques centrales, se sont trompés. Ils ont cru que c'était un petit rhume passager qui allait s'effacer tout seul. Ils se sont rendus compte de leur erreur et maintenant ils appliquent des remèdes. Ils appliquent un remède de plus en plus fort au fil des mois, tout simplement parce que l'inflation ne répond pas pour le moment à leurs attentes. Le problème, n'est-ce pas, c'est qu'ils savent aussi qu'à appliquer un remède de chien, ils risquent de tuer le malade, c'est-à-dire de provoquer une récession forte. Et ils ne le veulent pas. Donc je pencherai plutôt pour les 75 centimes ce soir. Mais par contre, ce que j'ai noté, c'est que depuis la publication du dernier indice d'inflation aux États-Unis, les attentes étaient auparavant vers un top autour de 4%. Et maintenant, on est passé à 4,25, 4,50. Et c'est ça qui est important.
Bon, voilà donc le cadre posé. Après, il y a notre sélection. Comment jugez-vous son comportement, Amandine ? On a réduit encore un petit peu plus l'écart qui nous séparait de l'indice CAC 40. Hein. On a moins de 2 points maintenant, ou tout juste 2 points maintenant, alors qu'on était un petit peu plus marqué ces derniers temps. Donc, le fait d'avoir allégé un peu le portefeuille, ça marche ?
Bien entendu, mais pas seulement. Hein. La sélection fait, sur le mois qui vient de s'écouler, une bonne performance. Et par rapport à ce qu'on disait en introduction, Cédric, ça se voit à la performance très différenciée des titres et des secteurs. Donc on a ce sujet de la valorisation qui vient temporiser la baisse de notre sélection. Et surtout, comme vous le savez, ben, on a quand même une part média qui est assez représentative, on va dire média, pub, télécom, hein, avec M6, Publicis, Vivendi. Alors Vivendi a une performance assez décevante, mais sur M6 et Publicis, les deux sociétés surperforment nettement. Et M6, malgré l'annonce de la fin de la fusion, ça a été un débat entre nous, justement, pour savoir s'il fallait sortir M6 il y a un petit mois. Et certains d'entre nous considérions que la valorisation, là encore, intégrait déjà l'échec de la fusion. On le voit, hein, le titre n'a pas baissé sur l'annonce, bien au contraire, puisqu'il y a un attrait spéculatif sur le titre M6, puisqu'on sait que l'actionnaire principal, le groupe Bertelsmann, également actionnaire d'RTL, a pour volonté de céder la chaîne quoi qu'il arrive. Et ce doit être fait avant mars 2023, puisque sinon, avec la réattribution des licences, ils ne pourront plus derrière effectuer un changement d'actionnariat. M6 et Publicis en tête de nos performances sur le mois écoulé, avec deux secteurs très différents, puisque Engie et Société Générale. Donc une bonne performance de la sélection et en plus une position cash qui nous a aidé à contenir la baisse.
Jean-François, content aussi de ce recalibrage finalement de la sélection, on est sur le bon rythme?
Oui. On s'est constitué des munitions importantes maintenant, puisqu'on a 15% de l'actif qui n'est pas investi, et ça s'est avéré particulièrement propice sur une semaine comme celle-ci, où les marchés ont bien corrigé. Il n'est pas sûr que la baisse des marchés soit finie. Et moi, je regarde en tête que, par rapport à ce que je vous écrivais tout à l'heure, ce sera uniquement au moment où on a l'impression que les médicaments sont en train de guérir le malade, que vraiment les marchés regarderont de l'avant et se rendront compte que la valorisation est très modeste. Donc, on peut encore avoir des semaines difficiles. Et c'est pour ça que cette position avec beaucoup de disponibilité me semble tout à fait opportune pour le moment.
Voilà donc ce regard sur la sélection. On a quand même aussi quelques épargnants qui nous suivent et qui posent des questions. Et certains voudraient savoir ce qu'il advient de Capgemini, parce qu'ils remarquent que le titre est un peu en panne. Qui est-ce qui veut dire un petit mot de Capgemini ?
Oui, alors...
Jean-François.
Oui, pas d'inquiétude sur Capgemini. Les derniers rendez-vous avec la société ont montré sa confiance dans l'atteinte des objectifs de l'année. Je dirais même qu'il y a au moins un début d'année 2023 qui apparaît déjà bien, bien engrangé. Évidemment, Capgemini est relativement cher. C'est un secteur, les SS2I, qui est sensible à l'évolution du Nasdaq, à l'évolution des taux d'intérêt. Donc, comme là, on a eu une semaine violente sur ce plan-là, Capgemini a été touché cette semaine. Mais pour autant, la santé de la société est formidable. Je vous rappelle, c'est le numéro 2 mondial dans son activité, derrière Accenture, et qui continue avec une croissance qui est à deux chiffres. Donc, pas d'inquiétude sur Capgemini. Profitez peut-être, si les lignes sont incomplètes, de ces faiblesses
pour se renforcer. Amandine, vous avez un regard pour répondre à Nicolas là, sur Capgemini ?
Oui, pas de cas particulier sur Capgemini. Hein. Il faut surtout regarder le secteur et la performance du secteur. Donc, elle est en ligne avec la performance du secteur. Comme le mentionnait Jean-François, justement, ça fait partie des valeurs assez chères. Et tant qu'on n'a pas de visibilité sur la fin de hausse des taux aux États-Unis, elle est susceptible de souffrir encore un peu. Sur une pure partie opérationnelle, vous savez que dans ce secteur des SS2I, ce qui inquiète le marché, c'est également les problématiques de recrutement, puisque ces sociétés perdent beaucoup de marge lors de ce qu'on appelle les intercontrats. Et comme le marché du travail est tendu, finalement, votre client a tendance à vous piquer votre consultant.
D'accord.
Donc ça, c'est la grande difficulté opérationnelle du secteur actuellement, on va dire.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir suivi cette sélection cette semaine. Donc pas de mouvement, on continue et on garde le cap. Amandine Gérard, donc financière de l'Arc, et Jean-François Gilles pour Erasmus Gestion. Dans un instant, 60 minutes business que vous retrouvez avec Sandra Gandoin.
Bonjour Cédric. Sandra. Vous allez bien?
Quel programme nous proposez-vous à midi?
Eh bien, on va revenir sur les déclarations alarmantes de Vladimir Poutine. Ces 300 000 réservistes qui seront envoyés sur le front ukrainien, qui sont-ils? On va poser la question à Jean-Marc Daniel. Une déclaration qui fait réagir les marchés, évidemment, les marchés qui, vous l'avez dit, attendent aussi les déclarations de la Fed ce soir, de combien va-t-elle monter ses taux. Édition spéciale à 20h, évidemment, sur BFM Business. Et nous, on va en parler avec Antoine Larigauderie. Et puis, on parlera de cette levée de fonds exceptionnelle, The Plug, qui lève 240 millions d'euros pour renforcer son service de recharge pour les véhicules électriques. Son directeur général sera avec nous. Et puis, à 12h30, évidemment, comme tous les jours, on répond aux questions des auditeurs téléspectateurs avec Lorraine Goumeau.
Merci beaucoup. À suivre donc 60 minutes business dans un instant. Le marché parisien, lui, a réussi à rétablir l'équilibre. On progresse désormais de 0,21%, 5992 points. Moi, je vous donne rendez-vous demain matin, 10h. Très bonne journée.